L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcapitalisme, autour aujourd'hui d'un livre, Pour elles toutes, Femmes contre la prison, paru aux éditions Luxe en 2019. Et donc nous sommes, pour parler de ce livre, avec l'autrice, donc Gwenola Ricordo, qui est donc professeure assistante en justice criminelle à la California State University. Elle a notamment publié aux éditions Autrement en 2008, Les détenus et leurs proches, solidarité, les sentiments à l'ombre des murs. Donc bonjour Gwenola.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter de votre ouvrage. Peut-être pour résumer rapidement votre thèse, il s'agit de présenter l'abolitionnisme pénal et carcéral comme une lutte qui doit être avant tout féministe et le féminisme comme une lutte avant tout abolitionniste. Peut-être simplement pour commencer, définir les termes que je viens d'employer. Donc l'abolitionnisme, il ne s'agit nullement de parler d'abolitionnisme contre la prostitution ou le travail du sexe, mais bien contre l'institution de la prison et contre le système pénal en général. Et là, donc, je fais la distinction entre le système pénal et la prison, ou le système carcéral, qui seront des mots qu'on emploiera au cours de cette émission. Peut-être pour commencer, vous pourriez nous présenter rapidement votre thèse. Dans votre livre, vous parlez de trois types, entre guillemets, de femmes qui sont confrontées à la prison et au système pénal, à la fois en tant que victimes, en tant que prisonnières, et en tant que famille des victimes, peut-être que vous pourriez présenter alternativement ces différents profils et comment tous ces groupes de femmes ont intérêt finalement à ce que la prison et le système pénal soient abolis.
Oui, alors avec ce livre, j'ai voulu répondre à une question qui peut paraître assez simple, qui est le système pénal protège-t-il les femmes ? Alors, question simplement énoncée, mais dont la réponse, je pense qu'on va le voir, peut être assez complexe. Et pour y répondre, je suis partie de trois situations. Donc, première situation, c'est celle de la victimation des femmes. Qu'est-ce que le système pénal fait pour les femmes qui sont victimes? Ensuite, qu'est-ce que le système pénal fait aux femmes qui sont criminalisées et incarcérées? Et puis, troisième catégorie, qu'est-ce que la prison fait aux femmes pour lesquelles une peine n'est pas prononcée, mais qui, dans ce système patriarcal, répondent à un devoir de solidarité et donc soutiennent des personnes qui sont en prison?
Évidemment, votre livre, c'est une réponse à la majorité des féministes qui défendent l'idée que, en tout cas, il y a une impunité qui est effectivement un fait incontestable, notamment des auteurs de violences sexuelles, puisque c'est une question auquel on a consacré plusieurs émissions. Et donc, en partant de cette impunité et aussi du caractère patriarcal de la justice qui finalement, en dehors de certaines catégories d'hommes plutôt prolétaires et racisés, laisse les auteurs de violences de genre largement impunis. Et donc, la réponse de la majorité des féministes depuis la fin des années 70 face à cet état de fait, face à cette impunité des violences de genre, ça va être d'appeler justement à une répression plus importante. Et notamment, ça va être dans les années 70, le combat pour la criminalisation du viol, qui auparavant était juste un délit. Alors même que dans les années 70, il y avait quand même un militantisme assez important contre les prisons, contre le système pénal. Et finalement, il va y avoir énormément de débats et de contradictions dans le féminisme des années 70, parce que finalement, est-ce que appeler à plus de répression, ça ne mène pas finalement à du coup favoriser la répression par la justice bourgeoise de prolétaires majoritairement racisés? Et finalement, à la fin des années 70, le débat va être un petit peu tranché en disant que priorité aux victimes, et qui serait le mieux pour les victimes. Je disais donc la majorité des féministes à la fin des années 70, c'est quand même malgré tout de les éloigner des victimes et donc voilà, de réprimer pénalement et notamment d'enfermer les auteurs de violences de genre. Et aujourd'hui, évidemment, ce féminisme que certaines appellent carcéral, comme par exemple Françoise Vergès, qu'on a invité, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur répondre sur le fait que ce ne serait pas la solution du point de vue des femmes, à la fois comme victimes, puisque c'est surtout d'elles dont on parle, mais aussi des deux autres catégories que vous avez évoquées.
Alors, je ne remets évidemment pas en cause le constat de la large impunité des auteurs de violences à caractère sexuel. Je pense que c'est un constat qui est largement fait. Mais il est vrai que aujourd'hui, les courants dominants du féminisme ont toute une rhétorique autour de cette impunité en appelant à davantage de punitions. Alors, c'est ce qu'on entend par systématiser les dépôts de plaintes, systématiser les poursuites pénales et aussi alourdir le prononcé des peines. Lorsque ces courants dominants du féminisme s'appuient sur l'outil du système pénal dans la perspective de mettre fin aux violences à caractère sexuel, ces courants avancent en fait masqués. Ils avancent masqués parce que en simplement parlant de mettre fin à l'impunité, ils ne disent pas en fait quelle est la réalité de ce projet. La réalité de ce projet, c'est l'incarcération massive des hommes. Alors, une statistique qui me semble extrêmement importante à avoir à l'esprit pour penser ce qu'est la réalité du projet autour de davantage de punition des violences à caractère sexuel, c'est le fait qu'on aurait environ 5% des hommes qui auraient commis un viol. On sait que les statistiques aujourd'hui en termes de victimation, c'est au moins 50 000 viols commis en France chaque année. Alors quand on parle plus largement des abus à caractère sexuel, on a des chiffres de l'ordre de 10 à 20% des hommes qui auraient été auteurs de ce type de faits. Et donc, lorsque ces courants dominants du féminisme parlent de mettre fin à l'impunité, il faut en fait en clair dire que le projet, c'est d'incarcérer des dizaines de milliers d'hommes chaque année, et voire même des centaines de milliers d'hommes. Alors, le projet politique, c'est en fait celui-là. C'est de est-ce qu'on est prêt à dire qu'il s'agit d'incarcérer au moins 5% des hommes aujourd'hui? Alors, ces courants avancent d'autant plus masqués qu'ils n'explicitent pas l'hypothèse extrêmement forte sur laquelle repose cette proposition stratégique, qui est si on incarcère une personne, cela aura un effet dissuasif sur les autres hommes. C'est l'idée que la peine, et donc en particulier la peine de prison, aurait un effet dissuasif. Or, lorsqu'on fait cette hypothèse-là, en fait, on pense le viol ou plus largement les délits et les crimes comme étant liés à un calcul rationnel. Le calcul rationnel, il peut exister pour un certain nombre de délits. Si vous fraudez, par exemple, les transports en commun, vous faites sans doute une sorte de calcul rationnel. Alors, ce type de raisonnement, il peut exister dans d'autres délits, par exemple du vol à l'étalage. Quel est le risque que le vigile s'en aperçoive, s'il va appeler la police, etc. Mais pour les crimes les plus graves et pour un certain nombre de délits, en fait, ce calcul rationnel, il n'existe pas. Et donc, lorsqu'on fait le pari de mettre des gens en prison pour dissuader d'autres personnes de commettre un délit ou un crime, on part de l'hypothèse en fait que les auteurs font ce calcul rationnel. Et donc, c'est un des reproches que je fais donc à ces courants dominants du féminisme, c'est de ne pas expliciter cette hypothèse et de ne pas la laisser ouverte à la discussion, et notamment la discussion scientifique.
Mais peut-être que pour ajouter à cette critique que vous venez faire de la fonction de la peine dissuasive qui ne serait absolument pas efficiente dans le cadre des violences sexuelles, on pourrait en outre, et vous en faites état parfaitement dans votre livre, ajouter que si même on allait jusqu'à emprisonner 5% des hommes du coup qui auraient été auteurs de violences sexuelles, cela aurait aussi des conséquences pour les femmes, pour les familles de ces auteurs de violences sexuelles, parce que elles ont, comme vous le démontrez dans votre livre, une charge mentale, matérielle, économique très forte qui résulte justement de l'incarcération de leur mari, de leur frère, de leur père, etc.
Lorsque ces courants dominants du féminisme présentent le système pénal comme un outil émancipateur, ils font évidemment l'impasse sur toutes les critiques qui sont pourtant extrêmement fermes et connues du système pénal comme un outil de la reproduction des formes de domination, notamment en termes de classe et de race. C'est largement connu que le système pénal n'est pas un outil neutre lorsqu'on voit qui est condamné, qui sont les cibles des politiques pénales et de l'outil répressif de l'État. Ce sont évidemment les personnes issues des milieux populaires, les personnes issues de l'histoire de l'immigration et de l'histoire coloniale. Et donc, en d'autres termes, ces féministes font comme si le système pénal n'était pas un outil de l'État et un outil qui est structurellement inégalitaire. Alors, évidemment, dans une société patriarcale, si dans les pays occidentaux, on est à plus de 95% de la population carcérale qui est composée d'hommes, en même temps, qui fait ce travail de solidarité, ce sont pour l'essentiel des femmes. Et donc, ça, c'est pas par hasard, c'est pas parce que les femmes ont un gène de la solidarité ou du souci de l'autre. Hein, on sait bien qu'il s'agit d'attentes différentielles à l'égard des hommes et des femmes, et que dans notre société, on attend davantage des femmes que des hommes, d'être solidaires, de prendre soin d'autrui. Et donc, ce travail de solidarité, hein, comme vous l'évoquiez, il se fait à plusieurs niveaux. C'est à la fois un soutien matériel, un soutien financier, et puis aussi un soutien émotionnel, hein, un véritable travail émotionnel, alors qui se fait au parloir, lors des visites, mais aussi par la correspondance, les appels téléphoniques, et puis aussi l'engagement extrêmement important des femmes dans les dossiers d'aménagement de peine, dans la sortie, l'accompagnement à la sortie, hein, comme on dit souvent, hein, l'après-prison, c'est encore la prison, hein, c'est encore une peine. Et donc, ce travail émotionnel fait partie du sort des femmes qui sont touchées, affectées par la punition d'un proche.
Mais alors, si on avait en face de nous une féministe carcérale ou alors très, très libérale, qui nous dirait, mais alors... Pourquoi pas le bracelet électronique dans ce cas? Pourquoi pas, dans ce cas, mettre la prison à la maison comme vous l'écrivez dans votre livre? Finalement, est-ce que ça ne serait pas une solution alternative à la prison qui permettrait justement d'éviter le surplus, une partie en tout cas du surplus du travail émotionnel et de la charge économique que coûte aux familles et aux femmes de prisonniers leur incarcération? Alors, pourquoi pas d'autres peines alternatives à la prison?
Alors, je répondrai à deux niveaux. Premier niveau, c'est un niveau pragmatique de ce que l'on sait de ce que fait le bracelet électronique pour les proches qui y sont confrontés. Parce que on pourrait croire effectivement que c'est plus simple, que ça facilite la vie lorsque une personne détenue se retrouve sous surveillance électronique ou sous bracelet électronique. Mais ce qu'on entend de beaucoup de proches, et en particulier des femmes, c'est que ce travail émotionnel peut être encore plus lourd que lorsque la personne est incarcérée, lorsqu'elle est en prison. Pourquoi ? Parce que, paradoxalement, il peut y avoir pour les femmes, et notamment pour les femmes issues des milieux populaires, avec l'incarcération notamment d'un conjoint, et pour l'essentiel, je me situerai là dans le cadre de familles hétérosexuelles et de couples hétérosexuels, mais pour certaines femmes issues de milieux populaires, il peut y avoir avec l'incarcération d'un conjoint des formes d'autonomisation. C'est-à-dire que on va entendre des femmes raconter que avec l'incarcération de leur conjoint, bah, finalement, elles ont pour la première fois été amenées à se déplacer par elles-mêmes. Et puis, le parloir a ses propres contraintes, ses contraintes horaires, mais finalement, elles ont pu avoir une forme de contrôle sur leur lien conjugal, voire aussi sur leur sexualité. Et que du coup, bah, le retour de leur conjoint à la maison bah, va être synonyme d'un surplus en fait, de travail émotionnel comparé à la situation d'incarcération. Alors, ce n'est pas uniquement les conjointes hein, qui ont ce type de discours. On entend aussi les hommes et les femmes placés sous bracelet électronique se plaindre de ce que cela implique en fait d'être à la fois à la maison et sous contrainte pénale. Donc ça, c'était mon premier niveau de réponse, qui est de dire Voilà, d'une façon pragmatique, le bracelet pour les proches de personnes incarcérées, c'est pas forcément plus simple que le fait d'avoir un proche en prison. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut penser en fait de cette mesure du bracelet électronique elle-même ? Cette mesure, elle a été présentée comme toutes les mesures dites d'alternative à l'incarcération, comme un moyen d'éviter la peine de prison à certaines personnes. Dans les faits, la critique a été depuis longtemps faite, et notamment par Foucault, c'est de dire en fait que les peines alternatives sont le moyen simplement d'élargir le filet pénal et donc de placer davantage de personnes sous contrainte pénale. Et que donc il ne s'agit pas de réellement d'alternatives, mais plutôt de banalisation de formes de contraintes pénales, voire même de formes de peine qui participent à légitimer l'existence du système pénal en rendant ces peines plus acceptables dans les standards démocratiques. Ça permet de s'éloigner du scandale de ce que seraient les conditions d'incarcération et donc de répondre à la critique qui est la plus souvent faite de l'institution carcérale, qui est celle des conditions qui sont faites aux personnes incarcérées. Et donc de déplacer cette critique, de la déplacer de la prison elle-même, en proposant des peines qui paraissent plus humaines, mais en même temps qui concernent davantage de personnes.
Mais peut-être pour rebondir simplement sur votre dernier point, je trouvais très intéressant votre analyse dans votre ouvrage de l'amélioration des conditions de détention comme limite à la réflexion sur l'abolitionnisme et sur finalement l'enfermement de manière plus générale. Et ça rejoint votre dernier point. Finalement, ce serait de dire que le bracelet électronique légitime la vision des individus sur l'enfermement, vu que l'enfermement est dorénavant à la maison. Finalement, c'est pas vraiment de l'enfermement. Et du coup, ça permet de détourner le regard sur le fait même d'enfermer une partie de la population. Et encore plus, ça permet de détourner le regard sur la possibilité d'abolir le système pénal, en fait.
C'est un peu l'enfermement à visage humain, quoi.
Exactement, à visage humain ou à visage technologique, parce que là, on met le doigt sur un élément qui me semble extrêmement important de la pensée abolitionniste, qui est de dire que on ne peut pas se contenter de critiquer et d'avoir pour horizon l'abolition de la prison. Je fais partie des gens qui pensent que l'abolition de la prison sera bien plus certainement achevée par l'État et ses intérêts bien compris que par le mouvement abolitionniste. Je m'explique, le développement d'un certain nombre de technologies risque très certainement de rendre à l'avenir la prison obsolète. Je reprends l'expression d'Angela Davis, mais il s'agit là d'un débat qui me semble extrêmement important à avoir. C'est que si on se contente d'avoir pour projet d'abolir la prison, on rejoint finalement certains intérêts à la fois de l'État et des intérêts économiques qu'il y a à développer certains nombres de techniques qui permettent de se passer de l'enfermement, des murs des prisons, et de développer des techniques qui sont à la fois moins coûteuses, plus acceptables socialement. Alors le bracelet électronique étant ce qu'on connaît actuellement, mais il y a un certain nombre de techniques qui se développent, qui pourraient être encore davantage acceptable socialement, puisque se passant de bracelets, vraiment des systèmes de surveillance et de géolocalisation, donc qui permettraient de contourner la critique qui peut être faite aujourd'hui du bracelet électronique comme étant un stigmate, et donc par exemple empêchant les personnes placées sous bracelet électronique d'avoir une vie sociale entre guillemets normale, d'avoir un travail, d'être un obstacle à l'embauche, à la vie sociale, et donc des techniques de contrôle et de surveillance qui permettraient donc aux personnes d'avoir un travail, une vie sociale tout à fait normale. Et donc, débat à mon sens extrêmement important, parce que si on laisse l'abolition de la prison à l'État et à ses intérêts économiques, on passe, à mon avis, à côté de la vérité du projet abolitionniste, qui est bien d'abolir le système pénal, d'abolir cet outil de l'État.
Mais pour autant, vous soulignez dans votre ouvrage qu'il ne faut pas non plus qualifier de réformiste finalement les luttes des prisonniers et des familles de prisonniers, qui finalement, eux, luttent bien sur les conditions de détention, sur les conditions d'accès au parloir. Vous soulignez bien que ces luttes sont cruciales, d'autant plus qu'elles sont invisibilisées au profit des luttes des matons, des gardiens de prison qui, eux, auraient des conditions de travail particulièrement difficiles. Je pense que c'est intéressant aussi de garder cette tension entre à la fois la nécessité de ces luttes du quotidien et la nécessité de la valorisation de ces luttes à la fois des prisonniers mais aussi des familles de prisonniers, et pour autant une perspective post-capitaliste dans laquelle on pourrait envisager justement l'abolition de la prison.
Oui, là-dessus, vous faites référence justement à l'expression d'André Gortz sur des réformes sans réformisme, c'est-à-dire des luttes qui visent à l'amélioration immédiate des conditions d'existence, en l'occurrence des prisonniers, mais dans l'optique d'une abolition du système pénal et carcéral, dans le cadre plus général d'une abolition du capitalisme, puis aussi du patriarcat et du racisme.
Alors là, on a affaire à un autre débat qui traverse les luttes abolitionnistes et qui est en fait une question qui n'est pas simple, qui est celle de la place des luttes des prisonniers, luttes des proches de prisonniers. C'est une question qui n'est pas simple parce que, pris dans leur ensemble, les prisonniers et leurs proches ne sont pas abolitionnistes. En fait, je préfère le dire autrement, j'utilise le terme de légitimiste, hein. Ils sont pour l'essentiel à penser que le système pénal et la prison sont des institutions légitimes. Et donc, c'est des débats qu'on voit à l'œuvre depuis les années 70 dans les luttes abolitionnistes. Quelle place faire aux prisonniers et à leurs proches, et quelle place faire à leur lutte? Et on a vu des positionnements extrêmement divers, hein, des abolitionnistes qui vont dire qu'il faut, en tant qu'abolitionniste, se placer derrière les prisonniers, soutenir les luttes des prisonniers, porter la parole des prisonniers, et puis de l'autre côté, hein, des abolitionnistes qui vont être beaucoup plus méfiants de ces luttes-là. Alors, une fois que l'on a dit ça, je pense qu'il faut un petit peu déconstruire ce légitimisme des prisonniers et de leurs proches. Je pense qu'il y a eu trop souvent dans les luttes abolitionnistes une sorte de pessimisme sur ce légitimisme, hein, comme un état de fait. Et du coup, voilà, on a affaire à une population pour laquelle on lutterait pour son émancipation, mais malheureusement, ils n'auraient pas vraiment conscience des rapports de domination dans lesquels ils s'inscrivent. Et du coup, malheureusement, souvent une vision un petit peu paternaliste des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Alors quand je dis déconstruire ce légitimisme, il ne s'agit pas de l'accueillir à bras ouverts, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi les prisonniers et leurs proches sont légitimistes. Je pense, et là c'est peut-être une réponse de sociologue, mais tendance à penser que les groupes dominés ont besoin de mettre un sens sur leur expérience de la domination, et que il est plus simple de se dire que la situation qu'on vit peut être légitime pour certains, plutôt que de se dire que c'est totalement injuste, notamment lorsque des solutions politiques n'y sont pas apportées. En d'autres termes, les personnes qui sont les plus stigmatisées ont tendance à rejeter ce stigmate sur d'autres personnes. Alors, les exemples que j'aime bien, c'est par exemple les personnes toxicomanes qui vont dire « mais moi, je ne suis pas vraiment un drogué parce que, par exemple, j'utilise tel ou tel produit ou je l'utilise de telle ou telle manière. Par contre, machin ou machine, alors lui, c'est un vrai tox. » On entend ça aussi parmi les travailleurs et travailleuses du sexe. « Moi, je ne suis pas vraiment une prostituée parce que je fais ça. Ça, mais alors tel autre, bon. Et du coup, on entend ce type de discours chez les prisonniers, chez leurs proches, hein, dire « Ah bah alors, moi c'est injuste, moi j'ai pas ma place en prison, mon mari devrait pas être en prison, mais alors lui, par contre, il mérite bien d'être en prison. » Et du coup, je pense que si on prend ce légitimisme au sérieux et qu'on le voit comme un enjeu politique, bah on touche là à la stigmatisation, à la situation d'être dominé socialement. Et je pense que le travail politique doit commencer par là, de donner du sens politique à cette expérience de la domination. Alors après, quelle place donner aux luttes des prisonniers, quelle place donner aux proches de prisonniers? Je pense qu'il s'agit d'un travail politique qui est de fait pas simple, parce que lorsqu'on est abolitionniste et militant politique, ben on se confronte effectivement à une population qui n'a pas forcément le même horizon politique. Alors je pense qu'on ne peut pas être abolitionniste sans faire des prisonniers. prisonniers et de leurs proches des sujets politiques et leur donner toute leur place. Après, le risque et la critique que je peux faire de certaines expériences de lutte passées, c'est le risque d'assigner les personnes détenues et leurs proches à des positions de témoignage, à des positions parfois de faire valoir des formes de légitimation du discours de militants politiques, hein, où on invite des proches, on inclut, hein, le discours de l'inclusivité, hein, d'avoir des personnes concernées, comme on dit aujourd'hui, mais sans en faire de réels sujets politiques de ces luttes.
Peut-être maintenant, il me semble qu'on a pas mal parlé du coup des femmes et des familles de prisonniers, des femmes victimes dans le système pénal. Peut-être que maintenant, dans un dernier temps de l'émission, on pourrait parler un peu des femmes judiciarisées. Dans votre livre, vous dressez pas un portrait, mais enfin des composantes des femmes judiciarisées, à la fois la vision stéréotypisante que portent les juges, la police, les membres de la prison sur ces femmes, notamment quand elles sont mères, mais aussi la situation des femmes trans, des femmes lesbiennes ou bisexuelles en prison. Enfin, peut-être examiner un peu la situation des femmes de manière générale en prison pour que les féministes qui sont censées défendre les droits de toutes les femmes...
Oui, et finalement, le caractère patriarcal, raciste et classiste de la prison, on ne le retrouve pas simplement que dans le traitement judiciaire et carcéral des hommes, mais aussi des femmes. Dans le sens où il y a les stéréotypes de genre, et aussi c'est les femmes racisées qui vont être plus pénalisées...
Alors, il est vrai qu'on sait que le système pénal, par son caractère patriarcal, ne traite pas de la même façon les hommes et les femmes. On parle souvent du paternalisme pénal, hein, dans les recherches sur le traitement des femmes par l'institution judiciaire. Et c'est une expression qui me semble intéressante parce qu'elle dit bien les bénéfices secondaires qu'il peut y avoir à être une femme dans une société patriarcale. C'est-à-dire, des fois, des formes de traitement qui peuvent sembler des traitements de faveur, mais qui cachent mal, en fait, la façon dont les femmes sont considérées comme n'étant pas totalement responsables de leurs actes ou ayant une responsabilité amoindrie, ou alors que leurs actes sont liés à une condition psychologique ou à la condition d'être femme. Alors, ce que l'on sait du traitement pénal des femmes, c'est qu'elles ont tendance à être moins condamnées et d'abord moins poursuivies, donc moins condamnées ensuite, et puis lorsqu'elles sont condamnées, elles ont tendance à être condamnées à des peines moins longues que les hommes pour des délits ou des crimes similaires. Et donc, il y aurait un certain avantage à être une femme. Alors, ça, c'est en généralité parce que l'exception de taille à cette bienveillance du système pénal à l'égard des femmes, c'est dans le cas des délits et des crimes qui incluent des enfants ou qui incluent des conjoints ou des partenaires masculins des femmes qui sont criminalisées. Et là, c'est encore une fois pas un hasard, c'est bien que là, le système pénal, en condamnant plus sévèrement les femmes que les hommes pour ce type de délits ou de crimes, dit bien ce qui est attendu des femmes et que les femmes qui tuent notamment des partenaires masculins ou qui tuent leurs enfants, sont considérées comme des femmes anormales et donc plus sévèrement punies que les hommes qui commettent des faits similaires. Alors, une fois qu'on a dit que les femmes bénéficient d'une certaine forme de bienveillance du système pénal, il faut regarder qui se retrouve en prison, quelles sont les caractéristiques des femmes qui sont incarcérées. Pour l'essentiel, les femmes incarcérées partagent les caractéristiques des hommes qui sont incarcérés. Elles sont, pour l'essentiel, issues des milieux populaires, liées à l'histoire de l'immigration et à l'histoire coloniale, et donc elles ont un certain nombre de caractéristiques qui sont celles des milieux populaires en termes d'éducation, du manque de ressources, de la difficulté à trouver un emploi ou d'avoir des emplois extrêmement précaires. Par contre, les femmes qui sont incarcérées se distinguent des hommes qui sont incarcérés de deux manières qui sont, à mon sens, extrêmement importantes si on veut avoir une analyse critique et féministe de l'institution carcérale. La première différence avec les hommes incarcérés, c'est qu'elles sont en très grande partie des femmes qui ont été victimes de violences à caractère sexuel ou victimes de violences domestiques. Alors elles sont pour l'essentiel pas incarcérées parce qu'elles ont été victimes, mais cette victimation s'inscrit dans une trajectoire sociale. Et cette victimation est souvent le moteur d'une difficulté à accéder à certaines ressources. C'est parfois un élément qui explique des formes d'itinérance, de perte de logement, de désaffiliation sociale, de perte de ressources sociales. Et donc, sur le long terme, cette victimation, qu'elle soit victimation sexuelle ou victimation dans le cadre de violences domestiques, va permettre d'expliquer pourquoi des femmes se retrouvent en prison. Alors, il faut reconnaître que lorsqu'on regarde ce qui se passe chez les hommes incarcérés, on note aussi une surreprésentation des hommes ayant été victimes de délits ou de crimes à caractère sexuel, mais c'est chez les femmes extrêmement prégnant. Autre caractéristique des femmes qui sont incarcérées, c'est les types de crimes pour lesquels elles sont poursuivies. Et notamment lorsque on regarde les actes pour lesquels les femmes sont punies pour les peines les plus longues, on remarque qu'il y a assez souvent un homme qui est co-auteur. En d'autres termes, là où les hommes punis pour des faits extrêmement graves sont souvent soit auteurs seuls ou co-auteur avec un autre homme. Pour les femmes condamnées à des peines les plus longues, leur co-auteur est souvent un homme ou leur victime est souvent un homme avec lequel elles avaient une forme d'intimité. Et donc, c'est intéressant d'un point de vue féministe parce que là aussi, on voit que l'incarcération des femmes n'est pas étranger au système patriarcal et aux violences structurelles qui sont faites aux femmes.
Oui, et d'ailleurs, je fais un petit point justement parce que finalement, on pourrait avoir l'impression que les hommes sont plus condamnés par la justice, ils sont plus en prison, les femmes bénéficient d'un traitement de faveur en tant que judiciarisées. Et donc, par exemple, un certain discours masculiniste pourrait dire « bon, bah, c'est bien la preuve que finalement, la justice et la prison, tout comme par ailleurs l'école ou le travail, etc., sont discriminants envers les hommes ». Alors que finalement, ce qu'on pourrait rétorquer, c'est que on voit bien comment est-ce que même dans le fait que, par exemple, les femmes qui vont commettre des violences, si elles sont moins condamnées, c'est parce qu'elles sont représentées comme faibles, irresponsables, ayant éventuellement agi sous le coude d'une impulsion ou sur les conseils machiavéliques d'un homme. Et par contre, là où elles vont être très sévèrement condamnées, c'est quand finalement elle trouble vraiment l'ordre genré de manière à ce qu'on puisse dire bon, c'est juste des pauvres victimes ou des hystériques, mais lorsqu'elles vont tuer leur conjoint ou leur enfant, là, elles détruisent finalement le noyau sacré de la société qu'elles sont censées représenter, c'est-à-dire la famille, et là, effectivement, elles sont condamnées très lourdement, plus que les hommes, quoi.
Peut-être qu'après avoir examiné la situation, du coup, des femmes victimes de violences, à la fois de genre ou pas, d'ailleurs, et la manière dont finalement le système pénal ne les protège pas. Bon, on n'a pas beaucoup examiné lors de cette émission, mais lors d'émissions précédentes, on avait examiné la force de la culture du viol, notamment dans le système pénal, à la fois au niveau policier, mais également des juges, etc. Quand les femmes sont judiciarisées, c'est-à-dire qu'une fois les femmes sont en prison, le système carcéral cette fois-ci, mais le système pénal aussi, ne sait pas les protéger, notamment quand on voit les violences de genre, et pas que d'ailleurs vécues par les femmes trans en prison et les femmes lesbiennes, mais aussi comment les femmes qui sont familles de prisonniers sont aussi victimes de manière secondaire un peu du système pénal et du système carcéral, parce que vous le montrez aussi dans le livre, comment finalement la peine n'est pas dirigée que contre le prisonnier, mais aussi contre l'ensemble de sa famille qui doit souffrir en fait de la situation. Du coup, peut-être qu'une féministe qui, avant cette émission ou avant la lecture de votre livre, n'aurait pas été convaincue par le fait qu'il faut se battre aux côtés de femmes qui luttent contre le système pénal et carcéral, peut-être qu'à présent, on pourrait se tourner vers les solutions.
Alors, il y a une formule que j'aime bien, qui est que le féminisme semble s'arrêter aux portes des prisons et des tribunaux. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui les luttes féministes et les discussions féministes, ben, on parle quasiment jamais, en tout cas on n'entend jamais parler des femmes qui sont en prison. On n'entend pas non plus parler des femmes qui sont affectées par l'existence de la prison en tant que proches de prisonniers et aussi de prisonnières. Alors ce silence me semble révélateur de la manière dont certains courants dominants du féminisme pensent leur sujet politique comme n'étant pas des femmes issues des quartiers, des milieux populaires, issus de l'immigration et de l'histoire coloniale. Parce que si on pense sérieusement le sujet politique du féminisme comme étant des femmes issues de ces milieux populaires et de cette histoire de l'immigration et de l'histoire coloniale, c'est évident qu'il faut parler de la prison, pas pour appeler à la criminalisation de certains hommes et au recours au système pénal, mais bien en fait pour se placer du côté de ces femmes qui sont affectées donc par l'existence de la prison. Alors, dans ce silence des courants dominants du féminisme, qui semble ignorer que pour beaucoup de femmes, la prison, c'est extrêmement concret et qu'elles subissent les conséquences des peines qui sont purement par leurs proches. Il faut dire que, dans le même temps, l'abolitionnisme, en tout cas les discussions au sein des mouvements abolitionnistes, n'ont pas été extrêmement développées d'un point de vue d'une critique féministe. Néanmoins, on peut quand même dire qu'il y a eu un certain nombre de débats ou de propositions qui ont été faites et que je retrace sans pour autant y adhérer, parce que le projet de mon livre n'est pas de donner un mode d'emploi, mais plutôt de suggérer des objets de débat. Alors, une des propositions stratégiques qui a pu être faite, c'est celle de la décarcéralisation des femmes. En clair, c'est l'idée qu'on pourrait prôner le fait de faire sortir les femmes de prison de manière prioritaire, notamment en raison des caractéristiques qu'on évoquait précédemment, en raison des types de délits et de crimes pour lesquels elles sont poursuivies, qui, de manière générale, porterait moins atteinte à la qualité de vie en société. Du coup, c'est l'idée que les femmes étant moins condamnées pour des actes ayant un caractère violent, il serait plus admissible socialement pour les abolitionnistes de jouer la carte de la décarcéralisation des femmes. Et donc là, on a affaire à une vision par étapes, une vision que l'on dit réductionniste de l'abolitionnisme. Donc de dire commençons par les femmes, et puis ça permettra ensuite d'élargir cette stratégie à d'autres catégories, et donc aux hommes. Alors cette stratégie me semble, comme toutes les stratégies réductionnistes, se heurter à un argument important que nous, abolitionnistes, appelons l'innocentisme. L'idée que lorsque on fait reposer une stratégie sur certaines catégories de la population en plaidant le fait que ces personnes ne méritent pas d'être en prison, qu'il y aurait de bonnes raisons de les préserver de la prison, indirectement, on justifie l'existence de la prison pour d'autres catégories de la population. Donc c'est un argumentaire, l'argumentaire innocentiste. On ne le rencontre pas que sur la prison. On le rencontre par exemple dans les luttes pour les sans-papiers. Lorsque on voit des mouvements qui se focalisent sur les enfants ou sur les mères avec les enfants ou sur les travailleurs sans-papiers, on a ce type d'impasse. Cette impasse qui est dans le même temps de désigner qui seraient les mauvais sans-papiers qui mériteraient le traitement que l'on sait qui est fait aux sans-papiers. Et donc, on a cette impasse-là dans l'abolitionnisme lorsque on va désigner certaines catégories comme les prisonniers malades, les usagers de produits stupéfiants ou les femmes, voire les LGBT, comme des populations devant être prioritairement sorties de prison.
Oui, et d'ailleurs, cette théorie de l'innocentisme, ça reconduit une certaine forme d'essentialisme. Donc, il y a quelques années, aux éditions La Découverte, il y avait un livre qui était paru justement sur la question de la violence des femmes, sur comment est-ce que finalement la question de la violence des femmes avait toujours été pensée sur le mode finalement de l'exception, de l'hystérie, etc. Et finalement, la théorie de l'innocentisme, elle conduit dans le cas des femmes à une forme d'essentialisation problématique.
Une seconde critique qu'on pourrait faire de la décarcéralisation dont vous parliez à l'instant, et aussi que on parle simplement des prisons, dans ce cas-là, on ne parle pas du système pénal. Et l'abolitionnisme, de manière générale, est aussi dirigé vers le système pénal plus général. Et peut-être qu'une réponse plus à même de répondre à l'ensemble des critiques que vous avez faites au cours de cette émission serait justement d'inclure tout le système pénal, parce que sinon, par exemple, si on envisage simplement la décarcéralisation, on oublie la situation à la fois des femmes familles de victimes, mais aussi des femmes victimes de violences.
Oui, et par exemple, là-dessus, dans les années 70, il y avait eu la proposition par certaines féministes, plutôt justement que de traiter les viols à travers le système pénal et carcéral, de par exemple afficher ou publiciser les violeurs, de manière à ce qu'on passe de l'optique d'une justice punitive à une justice, voilà, plus de prévention, de bon, attention, cette personne-là a déjà commis des violences. Justement, là, on a parlé beaucoup, justement, de la question carcérale. Du coup, comment est-ce qu'on pense, en attendant, disons, le grand soir et l'abolition du patriarcat, du capitalisme et du racisme, comment est-ce qu'on pense des manières de faire face à des violences de genre, par exemple, qui ne passent pas par le modèle de la punition? Comment est-ce qu'on pense autre chose en dehors du système pénal?
Alors, pour répondre à cette question, je voudrais faire un petit préambule parce que parfois l'abolitionnisme pénal, lorsqu'il est mal compris, est résumé à « il ne faut pas porter plainte, il ne faut pas recourir au système pénal ». L'abolitionnisme pénal, c'est pas un code de conduite morale qui s'impose aux individus. Il s'agit pas de dire aux victimes ce qu'elles doivent faire. Et lorsque on est abolitionniste, on peut évidemment regretter qu'une victime n'ait que comme solution à un moment donné que de recourir au système pénal. Mais il s'agit là d'un échec collectif. Il ne s'agit pas là d'une défaillance morale d'un individu. On peut dire de la même façon que de recourir au système pénal peut être un luxe réservé à certaines femmes et à certains hommes, hein, qui peuvent être des personnes qui vont être crues par le système pénal et qui vont apparaître comme de bonnes victimes, des victimes crédibles, avec un discours de victimation qui est crédible. Mais de la même façon, on peut aussi dire que de ne pas recourir au système pénal peut s'accompagner d'un certain nombre de privilèges. Hein, si vous êtes très bien entouré, que vous avez beaucoup de ressources sociales, peut-être que vous aurez le privilège de ne pas avoir besoin du système pénal. Donc, la façon dont je réponds à la question « mais que faire pour l'abolition ?» n'est pas une réponse individuelle de la manière de se comporter. C'est plutôt, d'une part, de faire un peu l'état des lieux des propositions stratégiques qui ont été faites. Et comme vous l'évoquiez, c'est vrai que malheureusement, on se contente parfois, parmi les abolitionnistes, de dire « attendons la révolution, attendons le grand soir et construisons une société dans laquelle il n'y aura plus besoin de prison ». Alors bon, je veux bien attendre et espérer, mais je pense que même si ce grand soir arrive, on aura un lendemain matin où il y aura toujours des situations problématiques, des torts qui auront été commis, et faudra bien s'en occuper. Et donc, je pense que on n'a rien à perdre à se préparer au lendemain matin, et que, en tout état de cause, l'expérimentation et les échecs qui vont avec l'expérimentation font partie aussi d'un processus révolutionnaire. Et donc, ce que j'expose donc en dernière partie de ce livre, c'est ce qui se fait et se pense aujourd'hui autour de la justice transformative. À mon sens, ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui à discuter, en tout cas en France, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, pour participer à la circulation des idées qu'il y a aujourd'hui autour de la justice transformative, pour l'essentiel en Amérique du Nord. Alors, pour expliciter brièvement ce qu'on entend par justice transformative, je pense que c'est important de dire que c'est pour l'essentiel des réflexions et des pratiques qui sont nées à partir des années 2000 d'une critique de la justice réparatrice et de la justice restaurative. Alors, on connaît en France davantage ces expressions, la justice réparatrice et restaurative. On va considérer que les deux expressions sont équivalentes. La justice réparatrice, elle est née de la critique du caractère punitif du système pénal. Et donc, avec l'idée qu'on pourrait imaginer et donc mettre en pratique des formes de justice non punitives qui permettent alors aux auteurs de réparer le tort qu'ils ont commis et donc d'aider aussi les victimes dans leur processus de reconstruction, de deuil. Mais ce qu'on a observé, c'est que les systèmes pénaux, et à commencer par le Canada, mais c'est aussi ce qu'on voit en France, notamment avec la réforme Taubira, ont instrumentalisé ces formes de justice, les ont assez bien assimilées, puisque maintenant, dans les systèmes pénaux, on peut avoir à la fois des approches punitives et des approches réparatrices. Et donc, la justice transformative, à partir donc du début des années 2000, décide de se situer de façon radicale à l'extérieur du système pénal et de manière à ne pas être réappropriée par le système pénal. Avec toujours cette idée qu'on peut mettre en pratique des formes de justice qui ne soient pas punitives, hein, et qui donc portent ce projet de réparation et d'accompagnement à la fois des auteurs et des victimes, mais qui aussi, et donc c'est l'élément extrêmement novateur de la justice transformative, l'idée que tout cela doit s'accompagner d'une transformation des rapports sociaux et des conditions qui ont rendu possible à ces situations problématiques de subvenir et donc à ces torts d'être commis.
Ce type de justice permettrait d'apporter finalement une réponse sociale en termes de transformation sociale à une question sociale qui est celle du patriarcat, des violences de genre, etc. Contrairement finalement au féminisme carcéral qui finalement aboutit quasiment à une vision du patriarcat en termes d'une certaine somme d'individus qui seraient dangereux et qu'il s'agirait d'enfermer. Finalement, ce qui ne résout pas le problème et qui ne fait que le reconduire, voire l'aggraver, puisqu'on sait que parfois le système pénal et carcéral produit aussi, aggrave aussi les violences de genre et le patriarcat.
Peut-être simplement pour conclure, ce que l'on pourrait garder à l'esprit, c'est une phrase que vous venez de dire et que je trouve très intéressante et très importante, c'est de ne pas culpabiliser les victimes avec des comportements normatifs à adopter en cas de violence de genre ou pas, et que finalement l'abolitionnisme pénal et carcéral vise la transformation de la société de manière générale, mais pas de l'addition des comportements individuels, et que c'est important d'envisager ça dans la perspective de la justice sociale plus globale, mais pas de la situation individuelle. Et je pense qu'on a gardé à l'esprit cette idée-là, même au cours des dernières émissions sur la culture du viol, de ne pas surresponsabiliser les victimes qui ont déjà vécu suffisamment d'événements traumatisants ou pas d'ailleurs comme ça. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter votre livre Pour elles toutes, Femmes contre la prison aux éditions Luxe.
Bah, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie.